Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de retrouver l'émission Écriture dessinée avec Bruno et son invité en studio. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. On va parler de Rock Alter. Ça fait référence à un programme de recherche territorial, territorialiser les alternatives dans des territoires fragiles de la région Occitanie. Donc on retrouve les lettres de Rock Alter. La bande dessinée en est une partie intégrée dès les processus de recherche et Frédéric de Baumy a participé au projet porté par Aurélie Delage et Max Rousseau, invité car il possède une longue expérience du dialogue avec la recherche en sciences sociales. Donc nous, c'est aussi le versant bande dessinée qui nous intéresse, et donc Frédéric de Baumy est en studio. À tout de suite. Écriture dessinée. Et donc, on retrouve pour la quatrième fois Frédéric de Baumy sur les ondes de Radio Escapade. Bonjour Frédéric.
Bonjour, je viens d'apprendre que ça faisait 10 ans que je venais à Radio Escapade.
Yes. Alors, je vais commencer cette émission par un premier livre. Il y a toujours un lien, bien sûr, entre tous les livres qui sont présentés et le livre de Frédéric de Baumy et de Benoît Guillaume qui est au centre de l'émission. Donc, Rock Alter va être en lien aujourd'hui avec un livre sur Alechinski, intitulé « Alechinski sur papier ». Et le livre de Dave McKean qui retrace l'ensemble de son œuvre Thalamus. Alors, Alechinski sur papier, c'est un catalogue. Le catalogue d'une exposition qui a lieu au musée de Pierre-André Benoît à Alès, à côté, et qui a accueilli une exposition sur Pierre Alechinski et sur le dialogue, la collaboration que les deux hommes, Pierre-André Benoît et Pierre Alechinski, ont eue. Alors, je n'ai pas été très réactif parce que l'exposition est terminée, donc je ne peux même pas vous la vendre. Elle s'est terminée au début janvier de 2026. Mais en tout cas, le catalogue reste et nous permet de découvrir ce qui fait la puissance, ce qui a dû faire la puissance de cette exposition. Tout d'abord, Pierre Alechinski, donc c'est un artiste qui a fait partie du groupe Cobra, qui a eu des débuts qu'il a raconté lorsqu'il a eu cette très grande rétrospective à Paris où il a parlé des 15 années passées. Ils étaient trois, il y avait aussi Christian Doutremont et une femme qui était avec eux dont le nom m'échappe. Mais en tout cas, il a fallu 15 ans pour qu'ils arrivent à pouvoir vivre de leur travail. Au bout de 15 ans, Pierre Alechinski, il y a eu une commande et qui a fait que toutes ces années à manger des vaches maigres a payé. Alors depuis, cet artiste a été mondialement reconnu et il a un rapport au livre très fort, très, très intense. Et ce qui a créé cette complicité avec Pierre-André Benoît, qui lui est artiste également, éditeur, imprimeur, poète, écrivain. Et donc, ils ont fait leur premier livre ensemble en 1957, première collaboration. Et depuis, il y en a eu des très régulières. Et c'est partie du livre Alechinski sur papier donne une très grande place au livre et à ce rapport que Pierre Alechinski et Pierre-André Benoît ont, et notamment avec le livre de dialogue, qui est vraiment une discussion entre le texte et l'image. Pierre Alechinski arrivant avec son travail de lithographe, avec son travail de dessinateur. Et donc, on a tout un ensemble de présentations de livres, et c'était l'objet de l'exposition de présenter tous ces livres où Pierre Alechinski est intervenu. Il y a une préface d'Yves Perret qui a été co-auteur sur un livre avec Pierre Alechinski, et Pierre Alechinski aussi qui intervient et dont le texte présente comment la collaboration naît, et bien sûr celle avec Pierre-André Benoît. Et donc il y a vraiment des détails réjouissants, où une fois, par exemple, Pierre-André Benoît apporte un petit bout de cuivre et dit à Alechinski, « Écoute, est-ce que tu peux me faire comme ça au débeauté une gravure ?» Et ça s'est fait avec un peu de difficulté pour Pierre Alechinski, mais en tout cas, la gravure en question a intégré un livre. Donc il y a toute cette partie des processus qui est aussi très réjouissant à découvrir dans ce livre qui est très très abondamment illustré. Alors c'est un catalogue qui reste complètement d'actualité et ça c'est aussi une très bonne chose. Alechinski sur papier, donc avec des textes d'Yves Perret et Pierre Alechinski. Ça a été publié par les éditions Gallimard en lien, bien sûr, avec Pierre-André Benoît Éditions. Ça date de 2025 et les 198 pages sont au prix de 30 euros. Le livre a été imprimé en Italie. Les moustiques. Alors Pierre, Frédéric de Baumy, vous êtes sensible à cette démarche, par exemple, de Pierre Alechinski et de sa façon de faire des livres avec cette facilité. Je vais pas vous prendre. Alors, je vais vous faire réagir sur autre chose. Dans son livre Les Remarques marginales, Pierre Alechinski cite cette phrase. L'art, une faille dans la catastrophe. Ça vous fera peut-être plus réagir.
C'est une vision optimiste et souhaitable. Je dis ça parce que j'ai à l'esprit aussi que la littérature et l'art, ça peut être aussi là pour, malheureusement, pour maintenir des illusions, maintenir des formes de domination. Enfin, il y a des représentations qui vont dans ce sens-là, malheureusement, en fait. Contre une image d'Épinal, parfois, que l'art serait du côté du juste et du bien, on peut aussi, en fait, et très souvent, produire des livres, des films et d'autres formes pour justifier l'existant ou pour maintenir des présupposés erronés, etc. Bon. Mais on peut aussi être cette faille, bien sûr, et donc j'ai le sentiment de m'y employer régulièrement, et j'espère avec justesse.
C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, votre bibliographie le montre, avec, par exemple, un point fort, c'est la Birmanie. C'est arrivé très vite et régulièrement, vous avez fait des livres sur la Birmanie. Est-ce que là aussi, cette écriture comme résistance, vous le ressentez quand vous écrivez sur la Birmanie ?
Alors sur la Birmanie, j'ai pas fait que des livres, puisque du coup mon projet le plus ancien, mon envie la plus ancienne, c'était de faire de la bande dessinée. Et puis ensuite, j'ai découvert au moment où je publiais mon tout premier livre de bande dessinée avec le dessinateur belge Louis Joss. C'était en 2001, et en 2001, j'ai découvert ce qui se passait en Birmanie. Donc une dictature militaire, des résistances à cette dictature militaire, une implication à l'époque de Total, qui était importante, donc ça concernait la France et les Français. Et donc, ça s'est mêlé, quoi. Quelques années plus tard, même assez rapidement, il y a eu un livre qui mélangeait témoignages et bandes dessinées sur la situation en Birmanie, un livre collectif que je dirigeais. Et puis, il y a eu plus tard les livres que j'ai faits avec Benoît Guillaume, notamment, et deux qui rendent compte de séjours en Birmanie qui voulaient être comme des photographies d'un pays à un moment donné de son évolution et où on donnait une certaine visibilité à des gens qui faisaient et qui, pour pour certains font encore ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils peuvent pour que la situation aille vers le mieux.
Alors il y a eu aussi dans votre bibliographie la force du ça y est, la force de l'ordre avec Rénal et donc là c'est aussi un écrivain universitaire qui fait une immersion dans la BAC,
ouais.
et qui vous récoltez l'après. En fait.
Oui, d'autant que Didier Fassin, puisque donc c'est le chercheur dont on parle...
c'est bien de le nommer, puisque je ne l'ai pas fait.
Avait fait un premier compte-rendu en fait, de son enquête sous forme d'ouvrage de sciences sociales. Et ce que je lui ai proposé quelques années plus tard, sans le connaître à ce moment-là, et sans savoir que lui-même y réfléchissait sur la suggestion de son éditeur au Seuil, c'était d'en faire une bande dessinée, une seconde restitution sous forme de bande dessinée. Et là, ma motivation était moins une motivation d'ordre, disons, de conviction artistique que d'envie de remettre ce contenu sur la table, puisque c'est unique, en fait. Didier a pu, alors de mémoire, c'est 16 mois, il a pu suivre les brigades anticriminalité pendant 16 mois et constater le problème de racisme des forces de l'ordre, le problème de violence visant certaines populations de la part de ces agents des forces de l'ordre-là. Et donc, c'est rare, en fait, qu'un chercheur puisse s'immerger de cette façon-là. En fait, la police laisse rarement observer, en France comme ailleurs. Là, il a eu la chance de pouvoir travailler librement, d'être derrière les policiers et de le faire pendant un certain temps. Quand il a voulu poursuivre l'expérience, ceci dit, c'était terminé. Donc lui aurait voulu même y passer plus de temps et ça n'a pas été possible. La parenthèse s'était refermée. Mais enfin, il a pu faire ce travail et comme c'était un travail unique et qu'il me semblait que la question des violences policières à caractère raciste n'était pas assez présente dans l'espace public français, il y a eu l'idée de faire cette bande dessinée. Et donc on a fait ça à trois avec Jacques Rénal.
Alors l'idée de ce rappel est aussi... le lien avec le livre qui va nous occuper aujourd'hui, donc Rock Alter, et là on va le découvrir après votre premier choix musical. Alors en fait c'est une proposition commune, c'est donc Barut, et c'est un morceau a cappella sur le pays de la laine, Terra di Lena, di Lana. Sabum beire luz que si perdu un po' mai che la malgra e blau luce de resistencia hay si luz que fan la lando anda preslo de la paciencia un po' mai Ligande tripos de razi Lengo nostra dos alen Que nos fará ben ilubi Sentaujo Ambis fluriius saguta L'armo clar al pred al cor Alors Frédéric de Baumy, Rock Alter, va accompagner un projet de recherche donc d'Aurélie Delage et de Max Rousseau, et ils vous ont contacté très vite, avant que la recherche soit achevée, contrairement donc à ce qui s'est fait avec, avec Didier Fassin. Et qu'est-ce qui... Comment s'est passée votre rencontre et comment vous êtes-vous raccroché à ce projet de recherche?
Alors moi, je connaissais déjà Max, en fait, qui est un ami d'un chercheur qui est un de mes meilleurs amis. Donc on se connaissait depuis un moment et en fait, il est venu vers moi effectivement au tout départ. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assurés à ce moment-là de pouvoir mener ce projet de recherche à bien. Donc il y avait une recherche de financement préalable, un dossier à constituer. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit on aimerait qu'il puisse y avoir une bande dessinée. Donc eux allaient faire leur travail de recherche, comme ils savent le faire, mais ils voulaient aussi me proposer de faire une bande dessinée et librement, avec de l'autonomie. Et ça, évidemment, c'est particulièrement intéressant, parce que dans un cadre comme ça, je peux prendre des initiatives, creuser des choses qui m'intéressent, faire la chose mienne, mais en n'oubliant pas qu'il y a des compétences que je n'ai pas. Et c'est ça que j'avais à l'esprit, notamment sur des compétences que moi, je n'ai pas, eux sont là. Donc si j'ai un doute sur quelque chose, si j'ai par exemple la tentation de généraliser à partir d'une observation, par exemple, je pouvais aller les voir en leur disant est-ce que c'est pertinent ou est-ce que ce sera une généralisation abusive. Je ne sais plus si ça s'est posé, je ne crois pas. Mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant d'être dans ce dialogue en fait avec les chercheurs menant leur projet de recherche, de pouvoir faire du terrain avec eux parfois, faire du terrain tout seul parfois, mais sur des terrains qui avaient été repérés au préalable par ces deux chercheurs ou les autres chercheurs qu'ils ont emmenés dans le projet global. Et voilà, c'était tout à fait intéressant.
Alors, et c'est bien présenté dans le livre, c'était quoi l'enjeu de cette recherche et comment vous l'êtes-vous approprié ?
Alors Max est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le déclin et la gentrification, donc à Saint-Étienne, à Cleveland aux États-Unis, au Maroc également. Donc il a étudié ces phénomènes de territoires qui sont dans les difficultés économiques, qui perdent une partie de leur population, qui s'en va ailleurs. Et donc ça l'intéressait, il vit en Occitanie, et ça l'intéressait d'étudier les territoires en déclin, qui sont en déclin ou qui ont été en déclin en Occitanie. Et la question posée était, est-ce que dans ces territoires-là, ils s'inventent autre chose? Et s'ils s'inventent quelque chose, ou différentes choses, ils s'inventent quoi? Porté par qui? Avec quelle philosophie derrière? Est-ce que ça a l'air d'aller quelque part? Est-ce que ça a l'air d'échouer? Est-ce que ça a l'air de tenir? Qu'est-ce qui se passe exactement, en fait? Quels sont les acteurs, donc, etc. Donc, c'est un vaste enjeu, parce que l'Occitanie, c'est vaste. Et donc, en emmenant d'autres chercheurs qu'eux-mêmes, dans le projet, ils ont essayé comme ça de fureter, de repérer, certains s'attachant à certaines questions plutôt qu'à d'autres. Par exemple, Aurélie Delage s'est notamment intéressée à la question des alternatives en termes d'éducation. Et là, il y a des choses intéressantes. Par exemple, le fait qu'on puisse avoir en fait des écoles qui ne pallient pas aux déficiences de l'école publique toujours et qui fonctionnent pas du tout sur la base d'égalité territoriale que doit assurer en fait l'État en matière d'accès à l'éducation, mais sur une base de profit. Et donc ça peut avoir des conséquences, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'élèves pour ouvrir une école, eh ben on ne l'ouvre pas et on va en monter une autre ailleurs, à un endroit où on sera assuré qu'il y ait le nombre d'élèves pour que le projet, qui est quand même un projet entrepreneurial, puisse fonctionner. Donc là, on voit que les alternatives peuvent être ambiguës ou du moins ne pas toujours pallier aux déficiences de l'État. Enfin, il y a tout un tas de questions et d'observations dans tout ça. Mais donc, à l'arrivée, on a une bande dessinée qui évoque ces questions de déclin, d'alternatives et qui, j'en ai le sentiment, est plutôt sur la question des alternatives. À l'arrivée.
Alors, concrètement, comment ça s'est passé? Bon, il y a beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'entretien porté par les chercheurs. C'est aussi quelque chose que vous pratiquez. Comment s'est fait la création d'un corpus qui vous permette d'écrire cette bande dessinée en résonance avec la recherche?
Alors en fait, il y a eu des repérages qui avaient été faits avant que je m'y mette moi véritablement. Donc des territoires avaient été identifiés et des acteurs sur ces territoires avaient aussi été identifiés qui étaient intéressants. Et moi, quand je m'y suis mis vraiment, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les territoires s'éclairent les uns par les autres. Les situations s'éclairent les unes par les autres et permettent au moins de poser des hypothèses. Par exemple, si on voit une commune comme la Grand-Combe, à un moment donné, on apprend que la Grand-Combe, ça a été créé pour les mines. Il n'y a pas d'histoire antérieure à l'exploitation, enfin, au travail des mines. Donc, quand cette chose-là disparaît, il ne reste rien. Il n'y a pas de passé autre sur lequel s'appuyer pour rebondir. Une commune comme Sauve, c'est tout à fait différent. Il y a un passé très ancien, multiple. Donc, si la commune est en difficulté un jour, peut-être qu'elle trouvera plus facilement des ressources pour rebondir parce que il y a une histoire plus ancienne et surtout plus diverse. Voilà, des choses comme ça, en fait. Il y a et puis, il y a les gens qui sont porteurs d'alternatives à différents endroits ne fonctionnent pas nécessairement avec le même bagage et de la même façon. Et donc, passer d'un territoire à l'autre, comme le fait mon personnage, puisque dans la bande dessinée, en fait, il y a un personnage qui est moi, sous forme de dessin, et qui va, en fait, voir, qui se déplace ici et là, qui rencontre différents acteurs comme ça d'alternatives et qui voient un petit peu ce qu'ils disent, ce qu'ils font et quand on les met un peu côte à côte, ça fait réfléchir. Voilà un petit peu comment le bouquin est constitué, avec à la fin un propos qui tente d'être un propos un petit peu d'élargissement de ce qu'on a pu observer d'un territoire traversé à l'autre.
Ça commence par Saube. Alors vous êtes Sauvin.
Ça commence presque par Sauve,
oui. Oui, presque. En tout cas, c'est un moment important avec la rencontre avec Franck, qui est une personne que tout le monde identifiera à Sauve. Pourquoi ce choix ?
Parce que Franck, du coup, Franck Michel, qui n'est pas originaire de Sauve, en fait, il était électricien pour le CNRS quand il était tout jeune. Et en fait, il était du coup garanti d'un CDI, quoi. Je ne sais pas si on disait CDI à l'époque, j'en suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, voilà, il avait un salaire.
Une carrière au CNRS.
Une carrière peinarde. Et en fait, il est parti pour travailler sur des chantiers de jeunes dans la ville de Sauve, la commune de Sauve. Il est tombé amoureux de la commune. Et donc, il y est resté. Il y a investi. Il retape la même maison depuis des décennies. Et entre-temps, à un moment donné, en fait, il a rencontré le monde du cirque, plus tardivement que ça n'est le cas en général pour les circassiens, je crois. Et en fait, il est devenu une personnalité dans le monde du cirque. Et donc, il a vécu au Canada. Enfin, il a vadrouillé beaucoup. Mais il est toujours resté attentif à la commune. Et donc, pendant du début des années 80 à aujourd'hui, malgré les tournées, il était là et donc il a pu voir la commune changer. Et voilà. Donc je trouvais que c'était un témoin intéressant parce que voilà quelqu'un qui n'est pas un originaire, mais qui s'est bien implanté et qui peut nous raconter en fait une commune qui change sur des décennies, même si évidemment c'est dans la bande dessinée, c'est l'histoire de quelques pages. Mais voilà, je trouvais que c'était un témoin intéressant pour cette raison-là.
On va écouter votre deuxième choix, qui est celui de Youssou N'Na, qui sera en concert à Vergès, dans Jazz à Vergès.
In my heart, inside and out, is all beloved. Body, blood and veins is all beloved. How can there be any room for religion
Vous êtes sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Frédéric de Beaumy en direct. Il est à mes côtés en studio et on discute de son dernier livre, Rock Alter. Alors, dans cette bande dessinée, dans ce documentaire dessiné, pourrait-on dire, pour trouver une étiquette, même si elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a donc différents lieux qui représentent ces territoires fragiles, et donc avec des alternatives différentes, comme vous l'évoquiez. Alors, on a cité Sauve, La Grand-Combe, il y a Crissendets, c'est comme ça qu'on prononce ?
Oui, en fait, c'est pas le véritable nom du village, parce que du coup, comme les villageois s'entendent plus, quand j'y étais allé, moi, en fait, c'était vraiment un modèle de démocratie directe, pas participative, mais en fait, qui fonctionnait très bien. Quoi, la maire élue avait choisi de pas décider toute seule, et donc les conseils municipaux étaient dans des chambres d'enregistrement de ce qui avait été décidé en assemblée, avec une réunion par semaine. Et moi, j'avais assisté à ça. Ça se passait très bien. Les gens se coupaient pas la parole péremptoirement. Personne parlait plus fort que les autres. Enfin, et c'était vraiment très agréable à voir. Ensuite, j'étais retourné parce qu'ils avaient mis en place un festival sur le thème de la forêt. Même chose. C'était fluide et tout. Plus tard, ça n'a plus fonctionné, et je crois plus fonctionné du tout. Et du coup, c'était un peu compliqué de laisser le nom du village. Je me suis demandé aussi quoi faire avec ça sur le coup, en fait. Est-ce qu'il fallait retourner là-bas ? Mais alors, du coup, quoi ? Recueillir la parole des uns et des autres, chacun ayant son avis sur les fautes des autres. Enfin, je sais pas. Donc, je me suis dit que ça a été une suggestion des chercheurs, en fait. Ils font parfois ça en sciences sociales. C'est qu'il ne s'agit pas de changer les faits ou... Mais on va renommer, substituer le nom d'une commune qui existe au nom d'une commune qui existe, un nom imaginaire mais qui en est proche, et pareil pour les noms ou prénoms de personnages rencontrés.
Parce que ce qui est important dans cet exemple, c'est le rôle des politiques.
Oui, oui.
Et donc là, il y a une vraie proposition, il y a une vraie alternative.
Et ça a fonctionné un moment, c'est-à-dire que là, je disais que ça ne fonctionne plus, et en fait, c'est mentionné à la fin de la bande dessinée, mais pas pour s'y attarder longtemps. D'abord, parce que s'y attarder longtemps, ça aurait donc supposé d'aller creuser pourquoi ils ne s'en retentent plus, etc., et d'entendre les desiderata des uns et des autres. Bon, donc on mentionne simplement le fait que ça ne fonctionne plus, parce que le collectif, après tout, c'est difficile, ça peut être difficile, mais ça n'invalide pas le fait qu'ils ont eu tout le mérite de tenter ça et que ça a fonctionné un moment et que c'était tout à fait agréable à voir.
Est-ce que cette position des politiques, est-ce qu'elle peut être inspirante ? Est-ce qu'elle a des échos, des façons de faire ailleurs qui seraient peut-être une des composantes de notre prochaine campagne présidentielle ?
Moi, ce dont je me rappelle, c'est quand ils ont fait ce festival, donc sur le thème de la forêt, il y a une sénatrice du coin qui est venue voir. Et apparemment, leur mode de fonctionnement, en fait, intriguait aussi des élus plus classiques des communes environnantes. Donc ça, c'est intéressant. Et ce que je crois aussi que ce type d'expérience démontre, pas seulement là, mais en général, c'est que finalement, quand on ne considère pas les citoyens comme des gens qu'on tient assez loin des affaires publiques et à qui, de temps en temps, on demande de voter, comme si, en fait, l'exercice de la démocratie, ça se limitait à ça. De temps en temps, on va voir des citoyens qui sont très loin des affaires publiques et qui, donc, vont peut-être pas voter de manière très adéquate, même pour leurs propres intérêts ou l'intérêt général. Si on prend les citoyens en leur disant « Écoute, on te croit capable de trancher, là, sur une question de voirie, par exemple, ou sur des questions plus larges d'environnement, etc. » En général, ils font bien leur boulot. D'après ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir dans ce village, en général, les gens, en fait, d'abord, c'est quand même valorisant d'être investi comme ça d'une responsabilité avec une confiance autour. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait aller vers ça plutôt que le modèle auquel on a droit actuellement et où finalement des professionnels des affaires publiques s'emparent de la chose publique. Et parmi ces professionnels des affaires publiques, malheureusement, et sans aller dans les raccourcis et mettre tout le monde dans le même sac, mais on constate bien souvent que c'est pas toujours l'intérêt général, l'intérêt commun, mon intérêt, votre intérêt qui est servi, mais l'intérêt d'une forme de caste pas toujours très ragoûtante, quoi.
Alors il y a vraiment sur l'ensemble des territoires des propositions différentes, mais il y a quand même en arrière-plan une absolue nécessité d'une présence des services publics.
Oui, c'est vrai, ça revient, effectivement, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'éducation, en fait. C'est l'État qui peut et doit assurer l'égalité territoriale en matière d'accès à l'éducation. Donc, voilà, ça, je sais que c'est une conviction, par exemple, d'Aurélie Delage, et que je comprends. Donc oui, il y a cette notion de service public et parfois de...
Parce que, par exemple, Eco-Lodev, l'usine également à Lodev, qui sont des initiatives privées, mais qui, à un moment, devraient pouvoir croiser l'État pour le développement, la pérennisation, pour que les territoires puissent s'approprier également ce type d'initiative.
Alors j'imagine qu'il peut y avoir souvent une défiance des deux côtés, en fait. Et je sais que dans le cas de l'ODEV, ce qui m'a été dit, c'est qu'il n'y avait pas tellement de lien entre des initiatives de la mairie et des initiatives portées par d'autres acteurs, en fait, qui sont des acteurs privés. Donc effectivement, il y a ce manque-là. Sans mettre forcément tous les torts de ce côté-là, je pense que du côté d'élus, c'est une réflexion générale là que je fais, il y a aussi parfois la volonté de tenir son truc et de se dire, voilà, la chose publique leur appartient, quoi, et de pas être emmerdé et de pas être déstabilisé par des initiatives qui viendraient d'ailleurs. J'ai le souvenir, je vais faire bref là-dessus, mais j'ai le souvenir il y a longtemps d'avoir assisté à Paris à une conférence où il y avait Lula, il y avait Dilma Rousseff, il y avait aussi François Hollande, Lionel Jospin, et je me rappelle de Lula, en fait, s'adressant à Jospin, qui était à ce moment-là pas sur la tribune, mais dans le public, et lui disant « N'ayez pas peur des gens qui sont des mouvements sociaux, quoi. En somme, n'ayez pas peur des gens qui sont plus à gauche que vous. » C'était peut-être pas formulé comme ça, mais c'était l'idée. Et Lula disait « Nous, on s'en nourrit. »
C'est intéressant pour la suite, parce que le livre montre une certaine puissance de réaction qu'on a dans différents territoires. Ça vous a rendu optimiste ou vous êtes plus tempéré comme l'est un peu la fin du livre où vous remettez en lien le contexte actuel?
Alors optimiste, je me pose jamais les questions comme ça.
Ouais, par exemple, c'est pas forcément un mot intéressant en plus. Bah,
non, parce que en fait, par exemple, quand je travaillais sur la Birmanie, donc pas seulement en faisant des livres, mais en essayant de soutenir le mouvement démocratique autant que je le pouvais, en fait, les gens qui se battent là-bas, c'était pas en me disant nécessairement on va y arriver, mais en me disant plutôt il faut le faire, ça doit être fait. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette dans cet état d'esprit-là, d'autant qu'on sera peut-être moins déçu si on commence à se dire c'est sûr, on va arriver à tel truc et que ça fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière de ne plus croire en rien, d'être résigné? Bon, il faut éviter ça à tout prix. Donc le contexte actuel à bien des égards est ce qu'il est. Bon, il y a une urgence quand même qui est un petit peu nouvelle, c'est l'urgence climatique quand même. Ça change vraiment les choses. Et donc là, on a une nécessité de résister, de désobéir, qui est sans doute plus forte, en tout cas qui est forte, vis-à-vis de l'inertie de responsables sur cette question-là, et sans laisser de côté non plus la violence sociale qui peut s'exercer, la violence policière qui l'accompagne, etc. Toutes choses que je rappelle à la fin. Mais c'est pour ça, par exemple, que j'ai parlé des soulèvements de la terre à la fin et de la résistance par rapport à l'autoroute A69. C'était pour dire que dans le livre, on passe d'un territoire à l'autre et on étudie des initiatives locales qui peuvent être méritantes, encourageantes, enthousiasmantes, mais parfois aussi... je me méfie de l'idée que la multiplicité des initiatives locales, selon l'état d'esprit colibri, suffira à produire le bien commun. Il me semble que parfois, il faut aller au rapport de force. Malheureusement, peut-être, mais en tout cas, il y a la nécessité du rapport de force. Les soulèvements de la terre ont bien raison.
Comment avez-vous travaillé avec Benoît Guillaume? C'est un dessinateur qui est vif, qui dessine un peu à l'énergie. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir son évolution dans Roquelter. On sent qu'il y a beaucoup plus de maîtrise. Comment travaillez-vous? Quels documents lui fournissez-vous? Comment se passe l'aller-retour entre l'écrit et la partie planche de la bande dessinée?
Alors, beaucoup de maîtrise, je ne sais pas. Je ne sais pas si je partage ce point de vue, mais qu'importe. En attendant, en Birmanie, on était partis ensemble deux fois, donc, pour faire des livres qui rendent compte de ces séjours. Là, c'est un peu différent. Il aurait dû être là, c'était l'idée au départ. Il aurait dû faire ses terrains en Occitanie avec moi. Finalement, il n'a pas pu. J'ai pris des photos, j'ai pris un maximum de photos. Donc il a eu toute cette documentation, et puis un scénario précis où je précisais dans le scénario en fait quelle photo allait servir pour telle image, etc. Donc c'était quand même très précis, quoi. Et donc lui a restitué ça avec effectivement cet aspect, cette caractéristique de son dessin qui est d'être un dessin très vivant. Et ça c'est ça qui l'intéresse, Benoît, en fait, parce que je me rappelle d'avoir vu dans une expo par exemple une image qu'il avait faite qui était tout à fait satisfaisante, très académique. Il peut tout à fait faire ça, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ce qui l'intéresse, je pense, c'est effectivement la vie, quoi, que ça vibre. Donc pour une traversée de territoire, c'est c'est sans doute bien en fait d'avoir un dessin comme ça qui restitue le mouvement, le fait qu'on est dans de la vie, quoi.
Oui, c'est le reportage dessiné.
Reportage dessiné, oui. Ou documentaire dessiné, comme suggéré il y a quelques minutes, ce qui me paraît... Oui, je ne sais pas très bien, l'un des deux ou les deux.
Est-ce qu'il y a eu une relecture globale de la fin, une fois que les planches étaient achevées? Est-ce que vous avez fait une relecture commune pour voir ce qui pouvait être améliorable?
Même en amont de ça, je pense, hein, pas avec Benoît.
Oui, avec Benoît. Benoît. Même avec l'éditeur aussi, parce que on parle peut-être pas suffisamment de la collaboration entre l'éditeur et les auteurs.
Alors, il y a eu des échanges avec les universitaires pour être sûr de pas être approximatif, par exemple sur une chose, pour lever certains doutes. Je sais plus exactement, mais il y a eu une part de ça à un moment. Avec Benoît, non, pas tellement. En fait, il avait des éléments précis et je recevais ses pages. Il me semble pas qu'il y ait eu tellement à revenir dessus. Sur le texte, il y a eu en fait une relecture serrée d'une éditrice qui travaille chez Cambourakis, donc qui est l'éditeur du livre, et ça c'était tout à fait plaisant parce qu'elle a vraiment travaillé avec exigence, avec précision, et donc bon bah là c'est ça prend toujours pas mal de temps en fait parfois ça prend du temps pour un auteur de recevoir des propositions de modification d'une phrase, etc., et d'y réfléchir, de dire oui, non, mais en tout cas, là, on a un travail du côté de la maison d'édition qui a été fait vraiment, vraiment tout à fait sérieusement.
Pour la suite, est-ce qu'il y a un projet qui est en cours ?
Il y en a plein, mais alors comme je fais mes projets sont le plus souvent, sinon toujours, pas les trucs les plus faciles à vendre, et que le monde de l'édition est peut-être pas au sommet de son audace.
Vous trouvez.
Et bah du coup oui, j'ai vraiment un certain nombre de projets de bande dessinée où j'ai les partenaires a priori côté dessin, dessinateur ou dessinatrice. Il y a de la fiction, il y a de la non-fiction là-dedans. Mais alors la question c'est l'éditeur. Pour ce qui est le plus certain, c'est qu'il va y avoir un bouquin qui évoque le Maroc, qui se passe au Maroc et qui est pas un bouquin de fiction, qui est un bouquin de non-fiction. Donc là encore, je deviens un personnage dessiné et le lecteur peut suivre mes pas. Ça paraîtra aussi chez Cambourakis en janvier 2027, et avec une dessinatrice italienne qui s'appelle Sylvia Rocchi. Et il y a un livre au seuil avec Jacques Rénal, qui était le dessinateur de La Force de l'Ordre, et là qui raconte le parcours d'un jeune homme qui n'est plus un jeune homme aujourd'hui, mais qui a été appelé en Algérie. Et donc c'est son expérience pendant la guerre d'Algérie, comme on l'appelle, ou la guerre d'indépendance de l'Algérie, peut-être comme on pourrait l'appeler aussi. Et donc ça paraîtra au seuil, peut-être à l'automne, c'est pas encore tout à fait certain.
On va écouter le dernier... Votre dernier choix musical. Alors, c'est une chanteuse
suisso-albanaise, sauf erreur de ma part.
Et son nom, redonnez-nous
Elina Douni.
Elina Douni, donc.
Kur të kuj kujt osh pyet i qel bërë dhe rrugët rrugicat e familis ndërme ndo më sjela shedhe mua të huaj, të huaj, të huaj si një statuj qa i theve krahun e gërsi duke për qafuar Roene Norene Lene Ola Onde Yon La 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 Olo Ia kujtosh të pinë në vjetër miqte unë burë dhe miqte vdekur kur të kujtosh pyjet e qelë bërë dhe kur të kujtosh të pinë në vjetër miqte unë burë dhe miqte vdekur kur të kujtosh pyjet e qelë bërë dhe rrugët dhe fëminis ndërme ndë më sjelësh edhe mua të huaj, të huaj, të huaj.
Et je n'ai pas rappelé les caractéristiques de votre livre, donc Rock Alter avec Benoît Guillaume, publié aux éditions Cambourakis. Le livre fait 96 pages. Je ne pourrais pas vous dire le prix parce que j'ai en fait moi j'ai que le PDF et c'était pas mentionné.
Il me semble que c'est 19 euros.
Bon, très bien. Alors le dernier livre qui va nous occuper est en lien direct avec Frédéric de Baumy puisqu'il s'agit de Thalamus de Dave McKean qui n'est pas son dernier livre. Il y a eu une correspondance graphique avec Jorge González qui est paru juste après. Mais en tout cas, Frédéric de Baumy, vous avez un projet avec Dave McKean.
Oui, on en avait parlé, et puis finalement un projet qu'il avait, lui, en solo, et qui était dans l'impasse, si je me rappelle bien ce qu'il m'avait dit. Tout d'un coup, trouver le moyen de se faire, c'était Raptor, qui est vraiment un livre que je recommande fortement, paru chez Futuropolis en France. Et donc ça a pris le pas, Dave me disant que pour autant il n'oubliait pas notre projet, et puis les années ont passé, je viens de lui en reparler, donc j'espère qu'on remettra ça en selle à suivre.
Alors Thalamus, c'est un livre qui a été publié en Angleterre en deux volumes, et l'éditeur galeriste Huberti Hebren a fait un seul volume de ces deux éditions. Et en fait, Thalamus, c'est une immersion complète dans l'œuvre de Dave McKean qu'il va commenter. Alors, c'est une présentation assez inhabituelle. C'est un très grand format. C'est un livre avec une très belle fabrication. Et on a, par une approche plutôt chronologique, son œuvre qui va être présentée, mais avec notamment, et c'est le format qui permet ça, de juxtaposer des pages d'un même livre et d'ainsi avoir une atmosphère assez précise et de voir comment les pages d'un livre se mettent en lien. Souvent, c'est assez difficile à faire lorsqu'on est dans la lecture de double page en double page et de voir comment ces doubles pages fonctionnent. Alors, il y a dans ce livre Thalamus cette façon de procéder qui est de pouvoir présenter un moment de sa création, de ses créations, et d'utiliser le format et de mettre par exemple quatre pages dans la double page, dans ces très grands formats. Alors, il y a un passage qui est assez étonnant où il parle de ses bandes dessinées, de ses coups de cœur. Et on a des titres assez étonnants. Mais il y en a un, par exemple, et c'est très significatif que Dave McKean ait choisi celui-là. C'est « À Kyoto » de Pierre Dubas, qui est un très beau livre. On avait eu un entretien avec Pierre Dubas à l'occasion, une exposition même à Ganges. Et c'est très bien que Dave McKean montre aussi à travers cette sensibilité et cette mention tout le rapport qu'il a à la création des autres. Et puis donc, on va avoir ces doubles pages. Donc on a quatre doubles pages des livres par double page de Talamus, et puis bien sûr des grandes images, puisque à plusieurs reprises on va avoir des images pleines pages. C'est un livre très impressionnant parce que ses commentaires sont toujours précis et sont d'une grande profondeur qui fait qu'on a vraiment le sentiment, alors ça va être la question que je vous pose, Frédéric de Baumy, qu'il a une visualisation de ce qu'il veut, qui est d'une très grande précision, parce qu'il mélange à la fois les techniques, les supports, mais toujours avec cette créativité qui reste presque exceptionnelle et presque unique.
Ce qui est rare en bande dessinée, c'est d'avoir effectivement un auteur qui ne maintient pas le même style, le même dessin, en fait, de la première à la dernière page. Et dans le cas de Dave, effectivement, il y a des variations nombreuses au cours d'un même récit. Sur l'approche graphique, mais c'est toujours justifié, c'est jamais un exercice de virtuosité, un exercice plastique, c'est toujours parfaitement au service de la scène du moment, et donc il trouve à chaque fois les moyens de servir avec une nouvelle approche graphique la scène du moment. Ça ne fait pas de rupture gênante dans la continuité du récit, il n'y a pas de phénomène comme ça, c'est toujours juste et approprié.
Donc c'est vraiment un livre exceptionnel. Dave McKean a fait beaucoup de livres, il a fait des bandes dessinées, il a fait des livres pour enfants, il a fait des clips aussi pour de la musique, il est musicien également. On a toujours une question sur savoir combien de temps il dort, mais ça ne doit pas être beaucoup. Et en tout cas, on plonge dans Talamus, parce qu'on a l'impression d'être au plus près de son œuvre, au plus près de ce qu'il imagine, et comment il va, et son texte est là pour l'appuyer, comment il va discuter sur les projets, parfois des commandes, et comment il va mettre en chantier une visualisation, un choix esthétique, narratif, les différentes collaborations qu'il a eues avec... Des écrivains comme Neil Gaiman, qui est une des plus importantes, et c'est assez exceptionnel. C'est en plus un auteur qui a interpellé l'IA, qui est très chamboulé par l'arrivée de l'IA. Il a fait un livre qui s'appelle Prompt, où il a posé des prompts à l'IA pour voir comment elle allait répondre. Il a publié aux éditions Barbier ses résultats. Et ce n'est pas du Dave McKean, on peut être tout à fait tranquille, c'est impossible. Mais il dit, voilà, le livre a été fait en une semaine et demie, ce qui n'est pas tout à fait son rythme. Mais en tout cas, c'est presque très rassurant, parce que finalement, l'approche picturale de Dave McKean est narrative, tout étant intimement lié, est vraiment unique.
Même si je ne lis pas tout ce qui se produit en bande dessinée, ce serait difficile, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a peu de gens qui écrivent aussi bien que lui. Parce qu'on parle souvent du dessinateur, il y a de bonnes raisons à cela, mais je pense que c'est aussi rare d'avoir ce niveau d'écriture en bande dessinée.
Et Kedges en est un exemple.
Par exemple.
Éternel. Voilà, donc c'était Alors vous nous préviendrez si jamais ça avance avec Dave McKean.
Oui, j'aimerais bien.
Parce que ce serait vraiment très très important. Alors, donc, Thalamus de Dave McKean est publié par les éditions Huberti et Bren. C'est un livre qui a été publié par imprimé par un éditeur qui est partout en Europe. Donc on imagine, puisqu'il a un site en France, que ça a dû être imprimé en France. Donc Huberti et Bren pour les éditions. 300 exemplaires, c'est 302 pages. Et c'est un livre qui est au prix de 50 euros. Peut-être à vérifier qu'il en reste. Merci Antoine pour cette technique. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous. Écriture dessinée.